enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Psaume 48, on va le lire ensemble. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tous stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Voilà ce cantique qu'on va essayer de s'approprier ce matin, et pouvant dire, comme avec la fin de ce psaume au verset 15, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu ». Mais qui est ce Dieu qui est notre Dieu ? Bien, ça commence au verset 2 en disant « L'Éternel est grand ». Le Dieu que nous connaissons est celui qui s'appelle l'Éternel. L'Éternel. Vous vous souvenez, ça se passe près d'un buisson ardent. Moïse était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père quand il voit sur une montagne un buisson ardent. Il détourne son chemin pour aller voir ce qui se passe, parce que ce qui était surprenant, c'est que ce buisson brûlait, certes, mais ça arrivait dans le désert, mais il ne se consumait pas, ça continuait à brûler. Il s'en approche et là il y a une révélation. Dieu lui parle au travers de ce buisson et Dieu va envoyer Moïse pour libérer le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte, le peuple d'Égypte, hein, on est suivi là. Donc on est là dans cette révélation avec Moïse. Et Dieu lui dit, vas-y, mais Moïse lui pose cette question, bah oui, mais si on me demande qui m'a parlé, que dirais-je, quel est ton nom? Et là, pour la première fois, Dieu se nomme et Dieu donne un nom. Tu diras, celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis. Et d'autres traduiront, je suis celui qui suis, qui est. Je suis qui je suis, d'autres auront traduit, je suis. Et dans ce je suis, parce que dans la conjugaison en hébreu, ça a toute une portée, c'est un je suis qui est aussi bien dans le passé que dans le présent que dans l'avenir. C'est un je suis éternel. C'est pour ça que nos Bibles en français ont traduit le nom de Dieu, Yahvé, par l'éternel. Et d'ailleurs, dans ce psaume lui-même, on en a la preuve au verset 2, l'Éternel est grand. Et là, dans ce l'Éternel, c'est le nom que Dieu avait donné à Moïse. Voilà comment je m'appelle, je suis, celui qui était, celui qui est, celui qui sera, l'Éternel. Éternel, ça veut dire quoi l'Éternel? L'Éternel, ça veut dire celui qui n'a pas de fin. Ça veut dire celui qui dure d'éternité en éternité, celui qui était, celui qui sera. Dieu est un Dieu éternel, un Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Notre Dieu est l'Éternel. Et c'est important ce matin encore de nous rappeler que notre Dieu, voilà le Dieu qui est notre Dieu, c'est celui qui s'appelle Je suis, c'est celui qui est l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, déjà dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre peut écrire « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Jésus est le même. Et là encore, on retrouve ce principe de hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'y a pas de temps en ce qui concerne Dieu, c'est l'Éternel, celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin. C'est difficile pour nous, en tant qu'êtres humains, de concevoir et de réaliser cette notion, de dire, mais comment Dieu, mais, vous savez, si on dit à un enfant, ben Dieu existe depuis toujours, mais il y avait qui avant Dieu? Qui était avant Dieu? D'où vient Dieu? Il n'y avait personne. Parce que avant Dieu, ça n'existe pas. Avant Dieu, c'est Dieu. Il est le commencement, il est la fin. Ça, c'est aussi une manière dont est présenté Jésus dans l'Apocalypse. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est avant et après, il est l'Éternel, celui qui est d'éternité en éternité. Et puis s'il faut se creuser, s'il faut réfléchir et méditer là-dessus, eh bien on va arriver à un point où on va dire, mais nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres qui avons un commencement, une fin, et c'est vrai qu'il nous est difficile, voire même impossible, de concevoir l'Éternel, de concevoir l'éternité. Mais pour reprendre la parole du psalmiste, ben, qui est la créature, pour dire au Créateur et pour réfléchir le Créateur, c'est lui le Créateur, et c'est normal qu'il nous dépasse puisqu'il est plus grand que nous, et c'est normal qu'il y ait des conceptions et des choses qui nous échappent parce qu'il est plus grand que nous. Mais il viendra un temps, et l'apôtre Paul nous explique qu'il viendra un temps où, une fois que nous serons au ciel avec lui, eh bien là, nous connaîtrons parfaitement. D'ici aujourd'hui, nous connaissons d'une manière obscure, et il viendra un temps où nous connaîtrons parfaitement et nous réaliserons, et nous pourrons saisir toute la portée. Mais pour l'instant, avec les fils de Corée, si nous chantons ce psaume 48, nous disons « Voilà le Dieu qui est notre Dieu, c'est celui qui est l'Éternel, celui qui s'est présenté comme étant l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera. » Ce qui veut dire que aujourd'hui, en 2004, pour l'instant, aujourd'hui, en 2004, Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. Pour reprendre une autre expression du prophète, il n'y a en lui aucune ombre de variation. Je ne sais pas si vous avez changé depuis l'année dernière, ou si vous avez changé depuis ces 10 dernières années, si vous avez pris un coup de vieux, si vos cheveux ont blanchi, s'il y a quelques rides qui sont venues se rajouter sur votre visage, mais en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas de changement. Il ne change pas. Il est le même, et c'est reconfirmé en ce qui concerne Jésus, Fils de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qui est important pour nous, c'est aujourd'hui, et c'est de réaliser que aujourd'hui, tout est pareil. Dieu n'a pas changé, son amour n'a pas changé, sa compassion n'a pas changé, sa grâce, sa miséricorde n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé. Dieu n'est pas fatigué, Dieu n'est pas las, Dieu n'est pas usé avec les années, il est le même. Et ce qu'il faisait autrefois, il le fait aujourd'hui encore. Au verset 8 du psaume que nous avons lu ensemble, il est dit, 48:8. Ah, j'ai noté 8, mais c'est pas 8, c'est verset 9. Au verset 9, « Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. » Et là, dans ce psaume, on réalise qu'il était une époque, il était une période où nous avions entendu parler. Nous avons entendu parler de Dieu. Mais là, maintenant, il dit « Ce que nous avions entendu dire, maintenant, nous l'avons vu. » Et dans le contexte, on l'a lu ensemble, vous voyez, il était question de rois qui avaient conspiré contre Sion. Sion, c'est la montagne de Jérusalem, que des rois avaient conspiré, avaient voulu là s'emparer de Jérusalem, s'emparer de Sion, cette colline sur laquelle était bâti le temple, la maison de Dieu, où Dieu avait fait cette promesse à Salomon et à David son père, j'habiterai dans ce lieu au milieu de mon peuple. Eh bien, comment Dieu les a chassés, comment Dieu a délivré, a protégé la ville. Et voilà que dans ce psaume, il chante ce triomphe, il chante cette libération, il chante la délivrance en disant, autrefois, oui, nous en avions entendu parler, nous avions entendu dire, mais maintenant, nous le voyons. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une parole de Job ? Vous avez entendu parler de Job qui est passé par des temps d'épreuves difficiles et comment Dieu va le secourir, le délivrer à la fin du livre. On voit comment là il est restauré et Job peut dire « Autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil te voit, mon œil t'a vu. » Peut-être que certains sont encore dans le autrefois ce matin, en disant, oui, moi j'ai déjà entendu parler de Dieu, moi j'ai déjà entendu parler de prodiges, de miracles, de guérisons, j'ai déjà entendu dire, oui, que Dieu peut faire des choses concrètes, des choses vraies, des choses puissantes, et puis agir, et peut agir là, pas seulement dans l'absolu, pas seulement dans l'univers, mais dans la vie d'hommes et de femmes, et venir faire une différence. Et peut-être certains disent, j'ai entendu parler, j'ai entendu dire que certaines personnes avaient été changées, avaient été transformées, avaient été radicalement transformées. Et certains au milieu de nous peuvent dire, c'est vrai, dans ma vie ça a changé. Avant, j'étais de telle et telle manière. Avant, j'étais drogué. Avant, j'étais dépressif. Avant, j'étais de telle et telle, j'étais sur tel et tel chemin. Mais un jour, ça a changé dans ma vie. Dieu a fait la différence dans ma vie. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces choses. Si vous êtes là ce matin, peut-être que quelqu'un vous a parlé de ça. Mais est-ce que vous pouvez dire avec Job, et est-ce que vous pouvez dire avec ceux qui chantent là, les fils de Corée, ce psaume 48, nous avions entendu dire, mais maintenant, nous pouvons dire aussi, nous l'avons vu. C'est pas seulement du oui-dire. C'est pas seulement des choses dont on a entendu parler. C'est pas seulement des histoires que l'on nous a racontées. C'est pas seulement des gens qui sont venus nous parler de Dieu. Mais c'est pouvoir dire aujourd'hui, moi-même, je suis capable de parler de Dieu. Non pas pour raconter ce que les autres m'ont dit, mais pour raconter ce que j'ai moi-même vu. Non pas pour être le témoin indirect, mais pour être le témoin direct. Pas pour être celui qui rapporte ce que les autres ont dit, mais pour être celui qui parle de ce qu'il a vu. Et pas pour pouvoir parler de Dieu au travers de ce que les autres ont raconté. Beaucoup aujourd'hui, dans notre société, parlent de Dieu au travers de ce qu'on leur a raconté. Et même certains vont dire, mais moi Dieu, je veux pas en entendre parler, vous savez, j'ai été élevé dans une institution religieuse, et j'ai entendu parler de Dieu depuis tout petit, et ça m'intéresse pas. Ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont vu une image de Dieu qu'on leur a donnée. Mais cette image n'est pas celle qu'ils ont vue, c'est pas la réalité de leur vision, c'est ce qu'ils ont entendu. On leur a parlé de... Je ne sais pas si on vous a déjà parlé d'un lieu ou de quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Et puis un jour, vous arrivez à l'endroit. Ou alors un jour, vous rencontrez la personne dont vous avez entendu parler. Vous n'avez jamais fait cette expérience où on est là comme sous le choc, en disant « Ah, c'était dans ça !» Je ne pensais pas que c'était comme ça, vu ce qu'on m'avait dit. C'est différent. Non ? Des fois, on se fait des idées, on se fait une image, on nous parle de quelqu'un, on nous parle de la France avec des palmiers qui poussent et tout. On dit, ah, c'est formidable. Puis quand on arrive en France, on dit, oh, faut faire attention où on marche, où on met les pieds parce qu'il y a des crottes de chiens un peu partout. C'est donc ça, la France. Des fois, on se fait des images parce qu'il y a des beaux reportages. On dit, voilà, c'est ça, les îles, c'est extraordinaire. aller en Floride, c'est formidable, il fait beau, il fait chaud. Mais enfin, quand il y a un ouragan là ou un cyclone qui passe, c'est plus les images qu'on trouve dans les catalogues d'agences de voyage. Et des fois, on peut avoir des images, on peut avoir des gens qui nous parlent de toutes sortes d'affaires. Mais quand on le voit, quand on le réalise, on dit mais c'est pas la même chose. Mais on peut, quand on le voit et quand on le réalise, il m'a dit c'est encore mieux que ce que j'avais entendu dire. Vous avez entendu parler de la reine de Séba? La reine de Séba avait entendu parler de Salomon. Et vous savez que Salomon était l'un des plus grands rois en Israël. Il y avait là, il est dit qu'au temps de Salomon, il y avait tellement de richesses dans le pays que l'argent, ça valait rien. C'était l'or qui comptait, et l'argent, c'était du métal, une bague en argent, c'était du toc, il fallait de l'or. Et un pays qui était tellement riche. Et quand la reine de Séba a entendu parler de Salomon, elle va faire tout un voyage pour aller rencontrer ce roi qui est là dans une magnificence, qui est là, qui a construit un palais, qui a construit un temple, le temple de Salomon, le temple que Salomon avait bâti pour l'Éternel, était un temple avec des murs qui étaient recouverts d'or. C'était quelque chose d'extraordinaire. La reine de Séba fait tout un long voyage pour aller jusqu'à Jérusalem afin de voir ce dont elle avait déjà entendu parler. Et quand elle arrive à Jérusalem, on trouve ça dans le livre des Chroniques et des Rois, quand elle arrive à Jérusalem, il est dit, elle en eut le souffle coupé. Elle en a le souffle coupé. Et elle va dire, mais ce que j'avais entendu dire, c'était rien par rapport à ce que je vois. Là, l'impression, l'expérience de la reine de Séba, c'est de dire, oui, j'avais entendu parler de merveilles. Oui, j'avais entendu dire que le roi Salomon était là dans la richesse, dans la sagesse, l'homme le plus sage de la terre. Oui, j'avais entendu parler de Salomon. Et je m'étais imaginé, j'étais venu pour venir voir celui dont j'avais entendu parler. Mais quand elle le voit, et quand elle voit la splendeur, quand elle voit la gloire, quand elle voit Jérusalem, quand elle voit, elle me dit, même ses serviteurs sont mieux habillés que les princes et les rois de chez moi, eh bien, elle dit, ce que j'avais entendu dire, c'était rien par rapport à la réalité. Et laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, c'est comme ça que ça marche. Bien souvent, on entend parler de Dieu, on entend parler de prodiges, on entend parler de merveilles, on entend parler de celui qui est grand. C'est ce qu'il y a au verset 2, l'Éternel est grand et l'objet de toutes les louanges. On entend des gens nous louanger Dieu, louer Dieu, dire voilà Dieu, il est digne de louange pour telle et telle raison, voilà ce qu'il a fait pour moi, voilà ce qu'il est capable d'accomplir aujourd'hui encore. Laissez-moi vous dire que quand on s'approche de Dieu et quand on ouvre les yeux sur la réalité, on arrive à cette constatation, oui, nous avions entendu dire, mais maintenant nous avons vu. Et ce que nous voyons est bien supérieur, bien plus grand que tout ce qu'on était capable d'imaginer, que tout ce que d'autres ont pu nous dire encore. Et on est toujours dans cette phase de découverte en découverte. Nous avons reçu comme une révélation, et cette révélation se renouvelle pour nous chaque jour où nous grandissons dans sa connaissance, et plus nous le connaissons et plus nous réalisons qu'il est encore plus grand que ce que l'on est capable d'imaginer. Il est digne, il est grand, il est digne de louange, il est plus grand que ce que l'on est capable de concevoir. Et je suis sûr que le jour où on sera de l'autre côté, où on arrivera au ciel, eh bien là encore on sera comme la reine de Séba avec le souffle coupé, en disant, mais jamais j'avais pensé que ce serait comme ça. C'est encore plus grand que ce que j'avais pu imaginer, parce que notre Dieu est grand. Nous l'avons entendu dire et nous l'avons vu. Il est celui qui délivre, il est celui qui restaure, il est celui qui renouvelle. Dans le psaume 118, il est dit, on chante aussi, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous avez déjà entendu cette expression ? C'est ici le jour, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais de quelle journée parle-t-on ? Certains vont dire, ben, d'aujourd'hui, c'est ici la journée. Non, dans le contexte, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte du psaume 118, il est parlé de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, il est question d'une louange parce qu'on a été exaucé, parce que tu es devenu mon salut, et ça, c'est cette journée que l'Éternel a faite. Mais dans le contexte, quand on réalise, cette journée, c'est une journée bien précise. C'est la journée où le salut est donné à l'homme. C'est la journée où Dieu est devenu notre salut. Est-ce que c'est la journée de Noël, ou est-ce que c'est la journée de la crucifixion, ou est-ce que c'est la journée de la résurrection, ou alors est-ce que c'est la journée où chacun, d'une manière individuelle, ouvre les yeux sur cette réalité et peut dire, avant j'avais entendu parler de Dieu comme étant le sauveur du monde, mais aujourd'hui mon œil le voit et il devient mon sauveur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, un jour de salut, un jour de délivrance, un jour de joie, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dans le verset 48, tout à la fin, au verset 14, au verset 15, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. » Il y a comme un pléonasme là dans ce « éternellement et à jamais. » « Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Voilà qui est notre Dieu, un Dieu pour maintenant jusqu'à jamais, ou jusqu'à toujours, est-ce que c'est la même chose? Maintenant jusqu'à toujours, ou maintenant jusqu'à jamais, ça n'a pas de fin, c'est éternel. Il est question dans la Bible de la vie éternelle. Jésus peut dire dans cette prière sacerdotale de Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. La vie éternelle. La vie éternelle. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe, la vie éternelle? Ça veut dire quoi concrètement, la vie éternelle? La vie éternelle, ça veut dire vivre pour toujours. Jésus dit dans Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il mourrait. » Si nous recevons Jésus comme sauveur, il est celui qui sauve, il est celui qui délivre, il est celui qui donne la vie, et la vie est sa vie que Jésus nous donne, parce que c'est sa vie qu'il nous donne. La vie qu'il nous donne est une vie éternelle, une vie éternelle, une vie qui vient d'en haut, une vie qui vient de Dieu, une vie qui commence dès maintenant. Il ne s'agit pas de dire oui, un jour, je vivrai. Non, maintenant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il vive pour l'éternité, éternellement. Qu'il vive, et cette vie éternelle, elle est pour aujourd'hui. Elle est pour maintenant. Et quand je reçois Jésus comme sauveur, quand j'accepte Jésus comme sauveur de ma vie, il me communique cette vie dès maintenant, ici-bas, sur la terre, et cette vie se poursuivra jusque dans l'éternité. Quelqu'un dira, mais si nous sommes des êtres éternels, tout va bien, tout le monde vivra éternellement. Ben, s'il est question de la vie éternelle, il est aussi question de la mort éternelle. Mort éternellement. Et la mort éternelle, simplement définie par une séparation d'avec Dieu pour l'éternité. La vie, c'est une communion avec Dieu pour l'éternité. Le paradis, si on veut reprendre cette expression, c'est la présence de Dieu pour l'éternité. Et cette présence de Dieu, on comprend qu'elle peut commencer dès maintenant, que Dieu veut être présent, Emmanuel, Dieu avec nous, être présent dans notre vie, dans notre quotidien, à partir de maintenant et pour l'éternité. Mais il peut y avoir aussi une mort éternelle qui consiste à une séparation. Et on comprend que cette séparation, elle a été initiée dans le jardin d'Éden, suite à la faute, suite au péché. Cette séparation de Dieu peut devenir éternelle. La mort éternelle devient éternelle partir du moment où on franchit le seuil de la mort. Mais tant que le seuil de la mort physique n'est pas franchi, cette mort peut encore se transformer en vie. Jésus est la résurrection et la vie. Et si certains sont comme morts par rapport à la foi, si certains sont comme morts par rapport aux choses de Dieu, si certains sont comme morts par rapport à leur éternité, il est encore temps, et c'est une bonne nouvelle, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, il est encore temps de recevoir la vie. On se souvient de ce que Moïse va dire au peuple d'Israël. Il y a devant toi deux chemins, un chemin qui conduit à la mort et un chemin qui conduit à la vie. Et Dieu dit, choisis la vie. Et il en est de même aujourd'hui encore. Il y a devant chacun d'entre nous deux chemins, un chemin qui conduit à la mort et un chemin qui conduit à la vie. Et Dieu n'est pas celui qui nous pousse dans l'un ou l'autre chemin, et pas celui qui nous force, et nous sommes là comme dans un destin, en disant « c'est mon destin, j'y peux rien, ça marche comme ça ». Si tu as ton choix, choisis. C'est ta responsabilité et c'est ton choix. Dieu a tout fait en Jésus pour que ce chemin soit ouvert, pour que cette route soit tracée, pour que cette voie royale, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour que cette voie royale soit tracée, soit ouverte. Et maintenant, il dit simplement, choisis, choisis la vie afin de vivre éternellement, à partir de maintenant et jusque dans l'éternité. Noël, c'est un jour de joie, c'est un jour de salut, c'est le jour où nous nous souvenons que Jésus, le Sauveur, est venu pour sauver, venu chercher, je comprends l'expression de Luc, venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et comme je le mettais dans le petit bulletin, Noël, c'est pas... Ah, c'est fini Noël. C'est pas aujourd'hui Noël, non, c'était hier. Alors, à Noël, on a allumé quelques bougies, vous avez allumé quelques bougies. Certains disent la fête de la lumière. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la fête de la lumière dans le monde juif, là, il y a pas si longtemps. La fête de la lumière, on met les bougies, on voit souvent pour Noël, hein, des représentations, des cartes de bons vœux avec une bougie. Mais le lendemain de Noël, qu'est-ce qu'on fait? On souffle la bougie. Non? On va pas laisser la bougie toute la nuit, quand même. Non? Vous avez laissé votre bougie? Est-ce qu'il y en a qui ont allumé une bougie pour décorer la table de Noël ou pour décorer, non? Un petit sondage, personne n'a fait ça? Est-ce que la bougie, elle est toujours allumée? Vous l'avez éteinte? Ben alors, c'est fini Noël! Si vous avez éteint la bougie, juste une petite image pour vous dire que la vie avec Dieu, c'est aussi le symbole de la lumière, hein, qu'on trouve tout au long de l'Écriture. C'est pas seulement une bougie qu'on allume et qu'on éteint. C'est pas seulement un moment de fête pendant un temps donné de l'année et après on souffle dessus et on oublie et on revient à nos affaires et on revient à notre train-train, on revient à nos habitudes. Et puis la fête est derrière nous, sachant qu'il y en a beaucoup qui se sont réveillés le lendemain de Noël avec plus un mal de tête et la gueule de bois. La fête est derrière eux, mais Dieu désire que la fête soit pas derrière, mais soit aujourd'hui, et soit pour demain, et soit pour après-demain. Parce que souvenez-vous, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, Dieu est éternel. Hier, aujourd'hui, et demain. Et ce qui était vrai hier, l'est vrai, est vrai aujourd'hui encore. Et le principe de Noël, le principe de salut qu'il y a en Dieu, c'est pas pour une période de l'année. Et c'est pour tous les jours. Que tous les jours soient Noël dans notre vie et que tous les jours soient Pâques dans notre vie aussi. Possible ça? Et que tous les jours soient la Pentecôte dans notre vie aussi. Non? Qu'on puisse vivre tous ces principes tous les jours. Pas seulement dire, bon, mais il y a des moments de ma vie où... Vous savez, quand on fait des sondages par rapport à la vie religieuse, on s'aperçoit qu'il y a bien du monde qui vont à l'église deux ou trois fois par an. Ils vont à l'église à Noël, ils vont à l'église à Pâques, à la Trinité, je ne sais pas trop c'est quand même. Non? Ils vont à l'église de temps en temps, Et puis, à quoi entre Noël et Pâques? Ils sont allés à l'église à Noël, et puis après, jusqu'à Pâques, qu'est-ce qu'on fait? On oublie Dieu, met dans un placard, et a plus de valeur. Est-ce que notre foi, est-ce que Dieu mérite pas d'avoir plus de place dans notre vie? Et que ce soit pas seulement la fête d'un jour, du 25 décembre ou une autre période dans l'année, mais pouvoir dire chaque jour. C'est une expression qu'on retrouve souvent dans la Bible. Chaque jour. Dans le psaume 44, il est dit, nous glorifions Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Dans le psaume 71, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Que chaque jour, qu'on puisse là être dans le moment présent et vivre chaque jour. Louer Dieu, rendre grâce à Dieu chaque jour. Dans Matthieu 6, 34, c'est Jésus qui parle et il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Vous connaissez, c'est devenu un proverbe populaire, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi aujourd'hui aller chercher la peine de demain et se soucier pour le mois prochain et se soucier pour l'année prochaine? À chaque jour, vivre au jour le jour et dire, Seigneur, je te fais confiance pour le reste, je te fais confiance pour l'avenir, je te fais confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre d'une manière insouciante et comment dire, inconsidérée. C'est pas ce que je suis en train de dire. Faut être responsable dans la vie, c'est vrai. Il faut prendre vos responsabilités. C'est vrai que j'encourage les jeunes à cotiser pour la retraite et il faut y penser. Il faut pas dire quand je serai à la retraite, je verrai bien. Non. Il faut être responsable. Mais je veux dire par là qu'en ce qui concerne les soucis et qu'en ce qui concerne les inquiétudes, c'est pas la peine de vous soucier pour tout ce qui pourrait vous arriver demain ou après-demain de catastrophes et de je ne sais quoi. À chaque jour suffit sa peine. Et qu'aujourd'hui, au lieu de vivre déjà dans le demain, on puisse vivre dans la journée d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui vivent toujours dans l'avenir. Moi, j'ai ma sœur, elle vit toujours pour les vacances prochaines. Vivement les vacances. Mais même quand elle est en vacances, elle pense aux vacances de l'année prochaine. Et on pense toujours à l'année prochaine et on est toujours là. Mais il y a une journée, aujourd'hui, puisse être là dans ce jour et dans ce jour aussi vis-à-vis de Dieu et pouvoir rendre grâce à Dieu, pouvoir l'honorer, le glorifier. Dans le Notre Père, Jésus dit quand vous priez, voilà comment vous devez prier. Et il dit simplement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit pas, donne-nous demain. Seigneur, que demain, que le mois prochain, que l'année prochaine, que dans 2 ans, que dans 5 ans, que dans 10 ans, j'ai mon pain. Non, aujourd'hui. Seigneur, ma prière, c'est aujourd'hui. Et je sais que le lendemain, eh bien, tu seras là aussi parce que tu es fidèle. Aujourd'hui. Dans le livre des Actes, il est dit que chaque jour, ils étaient ensemble, assidus au temple, qu'ils rompaient le pain dans les maisons, qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Et on voit la première église, eh bien, se réunir chaque jour, être là ensemble, chaque jour. Acte 5:42, chaque jour dans le temple, ils ne cessaient d'enseigner. Acte 2:47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans Actes 17-11, en ce qui concerne les chrétiens de Bérée, il est dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. » Et là, le livre des Actes des Apôtres honore ces chrétiens de Bérée qui, chaque jour, pas seulement lisent, mais examinent, pas ont une lecture superficielle des Écritures, mais examinent, cherchent à comprendre, examinent les Écritures chaque jour, afin de voir si ce qu'on leur enseigne, en l'occurrence c'est l'apôtre Paul qui leur enseignait. Est-ce que l'apôtre Paul était crédible? Non, si l'apôtre Paul venait là, à Drummondville, est-ce qu'on l'écouterait? Oui? Vous avez de l'estime pour l'apôtre Paul? Il connaissait son affaire? L'apôtre Paul est aberré, il enseigne. Et Luc ne fait pas de reproche à ces chrétiens qui examinent chaque jour. Est-ce que vous aussi, vous examinez chaque jour les Écritures? Et est-ce que vous vérifiez que ce que l'on vous enseigne, c'est exact? Ouais, faut vérifier, hein? Non? Pourquoi vous dites n'importe quoi? J'espère pas. Et vous viendrez me le dire si vous vérifiez. Mais si vous vérifiez pas, vérifiez, sondez les Écritures. Et là, j'insiste sur le chaque jour. Et c'est important de pouvoir chaque jour examiner, lire attentivement, méditer sur l'Écriture chaque jour. Hébreux 3, 13, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Qu'on puisse s'exhorter. S'exhorter, ça veut dire s'encourager, faire du bien. S'exhorter chaque jour. Est-ce que chaque jour, vous avez une parole d'exhortation pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin d'être fortifié? Chaque jour, exhortez-vous. Psaume 23, 6, le bonheur et la grâce. Vous connaissez le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et ça finit avec, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La volonté de Dieu, c'est que le bonheur nous accompagne tous les jours. Que la grâce nous accompagne tous les jours. Que ce ne soit pas un temps de joie pour une période de l'année. Que ce ne soit pas un petit bonheur pour une période de l'année, pour un moment précis, mais que ce bonheur soit pour tous les jours, parce que Dieu est éternel. Tous les jours de ma vie, Dieu est celui qui veut mettre du bonheur et de la grâce, toujours. Dans 2 Corinthiens 5, 6 et 7, voilà, comme une conclusion, l'apôtre Paul peut dire, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Toujours plein de confiance. Peut-être quelqu'un dira, oui, mais l'apôtre Paul, là, c'est facile à dire pour lui. Il connaît pas ma situation. Il connaît pas ma misère. Il connaît pas mes difficultés. Il sait pas par quel passage difficile je suis en train de vivre. Il y a des choses pas... Écoutez, l'apôtre Paul, je sais pas s'il avait une vie facile. Vous connaissez un peu la biographie de l'apôtre Paul? Oh, il a fait quelques fois naufrage. Ça arrive, faire naufrage, hein. Imaginez, là, pendant 40 jours de tempête, là, naufrage. Puis il se retrouve le bateau explosé, ceux qui ne savent pas nager s'accrochent à un morceau de bois pour arriver là, échouer sur une île. On voit l'apôtre Paul à plusieurs fois attaqué par des brigands, en péril par les brigands, lapidé. Ah, là, vous avez déjà été lapidé? Vous arrivez à vous imaginer ce que ça peut faire, être lapidé, à tel point qu'on l'a laissé pour mort. Bon, je pense qu'il a dû mettre quelques jours avant de s'en remettre, hein. Ça n'a pas pris un Advil et puis c'est passé, hein. Ça a pris quelques temps, là. Lapidé, fouetté à plusieurs reprises, 40 coups moins un. Fouetté, battu à coups de bâton. S'est retrouvé en prison. S'est retrouvé dans toutes sortes de circonstances fâcheuses. Et l'apôtre dit, ce même apôtre, écrit aux Corinthiens, en disant, nous sommes toujours pleins de confiance. Malgré toutes ces circonstances, malgré toutes ces difficultés, il met sa confiance en Dieu. Dans le mot confiance, il y a le mot foi, hein. Il met sa confiance en Dieu. Déjà, le psalmiste pouvait dire dans le psaume 34, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et là, il y a un toujours qui est important. Est-ce que vous faites la différence entre souvent et toujours? Vous voyez, des fois, les enfants, où il y en a, ils parlent, ils disent, ça, c'est toujours moi qui fais la vaisselle. Ça, c'est pas toujours, toi. Peut-être souvent, mais pas toujours. Faites la différence entre souvent et toujours. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est toujours. Dieu est fidèle. Il ne nous lâchera pas, il ne nous abandonnera pas. Il n'y aura pas une erreur de la part de Dieu. Il n'y aura pas un moment où ben, il y aura une circonstance, ah ben là je ne pouvais pas. Non, c'est toujours. Et dans le psaume 34, si le malheur peut atteindre souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Et qu'il est bon et qu'il est réconfortant de réaliser ce matin encore que Dieu ne change pas. Qu'il n'a pas changé d'avis en ce qui nous concerne. C'était pas à une époque qu'il m'aimait, maintenant il m'aime plus. Il nous aime toujours. Enfin, à un moment, il était avec nous, maintenant il est contre nous, non? Il veut toujours être avec nous. Enfin, à un moment où il était en notre faveur, il avait compassion, il voulait nous faire grâce, puis maintenant il a changé d'avis. Non. Dieu change pas d'avis. Il est toujours le même. Il est celui qui délivre toujours. Dans le psaume 40, l'Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens ? Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Et que notre joie, et quand on dit joyeux Noël, on souhaite à ceux à qui on dit joyeux, eh bien, c'est de se réjouir. Joyeux Noël, qu'il y ait de la joie dans votre cœur. Et vous avez remarqué que dans notre façon d'exprimer nos vœux, on dit souvent joyeux Noël et bonne année. Et pourquoi on ne dirait pas bon Noël et joyeuse année? Parce que peut-être que dans notre idée, c'est plus facile d'être joyeux une journée que toute l'année. Non? Plus, on va dire quand même, il faut pas souhaiter des choses qui sont pas possibles, là, quand même. Souhaiter une joyeuse année? Ça se fait, souhaiter une joyeuse année? Il y en a qui prennent le risque de souhaiter une joyeuse année. Toute une année joyeux? Non, il y aura forcément des moments de tristesse, des moments de déception, des moments difficiles. Oui, peut-être qu'il y aura des moments de tristesse. Mais dans ces moments de tristesse, Dieu est celui qui veut sécher les larmes. Et comme peuvent dire les prophètes, et on l'a plusieurs fois dans la Bible, ben, il transforme la tristesse en allégresse. Il sèche les larmes et met la joie dans le cœur. Et il peut y avoir des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, Dieu est celui qui veut amener la paix, le réconfort. Et même de la joie. Une joie, comme peut dire l'apôtre Paul aux Philippiens, qui surpasse toute intelligence. En conclusion, je vous invite à aller au psaume 136. Le psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Vous pourriez presque répéter avec moi, ça ferait très liturgique, hein, répéter avec moi, car sa miséricorde dure à toujours. Mais bon, pas comme une petite phrase qu'on répète comme ça, mais comme une adhésion de foi, une proclamation disant, oui, c'est vrai. Amen, sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et qui fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dura toujours. Et il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dura toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dura toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dura toujours. En fait, c'est quoi la miséricorde de Dieu? La miséricorde, sa bonté, son amour à notre égard, sa compassion à notre égard. Que personne ne dise ce matin, Dieu m'a oublié. Dieu prend pas soin de moi. Dieu n'a rien pour moi. Il est celui qui nous aime encore. Il est celui qui, dont la miséricorde durera toujours. On va prier quelques instants. Seigneur, nous nous réjouissons dans ta présence ce matin. Et avec joie, nous disons merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour l'amour que tu manifestes à notre égard. Merci parce que tu n'as pas changé. Ta miséricorde durera toujours. Aujourd'hui, Seigneur, si quelqu'un dans ce lieu est là en disant « Oui, j'avais entendu parler de Dieu. J'avais entendu parler de lui. » Seigneur, qu'il puisse te voir. Que ce soit pas des paroles, que ce soit pas des mots, mais que ce soit une réalité au fond du cœur, et qu'il puisse dire, oui, maintenant mon œil te voit, je connais ton amour, je connais ta grandeur, je connais ta puissance, je connais ta miséricorde, je connais ton salut. Ô Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus. Que ton nom soit glorifié dans cette journée encore, que ton nom soit magnifié, que ta gloire, ô Seigneur, durera toujours dans ce lieu, dans nos vies. Nous voulons t'acclamer et nous souvenir que tes bontés n'ont pas de fin. À ton nom soit toute la gloire. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.